out of time. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away. I want it all. Just like fire, burning up the way. Rocking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. To laugh at you cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No.
Imaginaire, ce n'est pas que pour les enfants.
Aujourd'hui, mondes imaginaires ouvrent une porte. Oui, le thème c'est la porte, le passage, la traversée entre les mondes. Le nôtre est un monde magique, merveilleux, fantastique. En compagnie de Jessica, Johanna et moi, vous arpenterez les rêves avec Alice, vous découvrirez les merveilles du docteur Parnassus, vous courrez sur la route de briques jaunes, vous voyagerez en Murderland ou vous traverserez une armoire direction Narnia. Il est l'heure. Notre émission ouvre ses portes. Bienvenue dans Mondes Imaginaires. Dans l'actualité de Mondes Imaginaires, deux livres et un film. Nous l'attendions, il est là, le Damasio nouveau est arrivé aux éditions La Volte. Il nous gratifie d'un ouvrage petit, pratique, transportable en vacances, qui s'appelle Le Dehors de toute chose. Ça vous rappelle quelque chose ? La zone du dehors, peut-être ? Le premier roman d'Alain Damasio ? Normal, le dehors de toute chose, c'est la substantifique moelle de la zone du dehors. En première partie, on retrouve un monologue architecturé par Benjamin Maillet qui regroupe les idées coup de poing de la Volte. La Volte, c'est la coalition politique qui s'oppose au pouvoir lisse du clastre, un outil de pouvoir qui classe les gens pour leur performance sans souci de ce qu'ils sont ou souhaitent. C'est quelques pages denses et déroutantes qui questionnent le nous, le système, l'autre, l'obéissance aveugle. Fil que l'on retrouve en seconde partie avec les réflexions d'Alain Damasio lui-même qui porte plus loin la volution en approfondissant les thématiques de la zone du dehors. Vous avez envie d'autre chose qu'un roman à l'eau de rose pour vos vacances ? Eh bien lisez Le Dehors de toute chose, un questionnement qui chatouille un peu comme une feuille de palmier poussée par le vent contre vos orteils. On change de registre plutôt violemment parce que l'on parle de combat pour la survie, le combat du peuple orc qui ont quitté leur monde dévasté pour envahir celui des hommes. Voilà, c'est le pitch du film Warcraft. Pas mal d'ailleurs pour un film tiré d'un jeu assez imagé, on ne s'ennuie pas trop, même si selon Jess il y a quelques invraisemblances. On s'attache au personnage et surtout on se demande comment un acteur accepte de telles dents dans sa bouche. Gars, va y avoir une trace de ces images, tu es filmé, le monde entier t'aura vu sur grand écran. C'est cette image-là que tu veux laisser à la postérité ?
Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Si notre peuple veut survivre, nous devons nous établir ici. Quoi qu'il advienne.
Quoi qu'il advienne.
Allez, place à l'actu qui a déterminé le thème de notre émission, Alice de l'autre côté du miroir. Beaucoup ont dit que c'était un film de Tim Burton et non, c'est produit par Tim Burton. Le réalisateur, c'est James Bobin. On retrouve la même Alice, le même âge, le même délire, avec peut-être des fringues un peu plus loufoques, mais c'est une belle continuité que nous offre James Bobin de l'univers du grand Tim. On comprend un peu mieux pourquoi est-ce que Tim Burton a investi dans une suite. Nos collègues de France Inter disaient que le film pique les yeux. Certes, les couleurs plus que bariolées se retrouvent dans Alice de l'autre côté du miroir, mais dans le premier film aussi. Pourquoi aller voir la suite si on n'a pas aimé l'univers coloré d'Alice au Pays des Merveilles ?
Joyeux non-anniversaire à moi !
À qui ?
À moi !
À vous !
Un joyeux non-anniversaire à vous !
À moi !
Mais oui !
À moi !
Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher !
Bon. Sachez que l'on retrouve les mêmes personnages, le chapelier, Tweedledum, Tweedledee, la reine blanche, la reine de cœur, le chien pâteau, le lièvre de Mars, mais en moins présent, et c'est peut-être ce qui me gêne, parce qu'Alice part rencontrer un nouveau personnage, le temps. Il y a de nombreuses années, le chapelier a perdu ses parents, tué par le Jabberwocky. Et il est persuadé, un jour, on ne sait pas trop pourquoi, que ses parents sont vivants et il dépérit. Pour éviter que le chapelier ne s'éteigne, il devient tout gris, ce que personnellement je trouve assez rigolo, Alice remonte le temps pour éviter que l'attaque du Jabberwocky ait lieu. Voilà, fin de l'histoire. Pas grand chose de plus et pour cause. Alice de l'autre côté du miroir sort de nulle part. J'ai lu les aventures d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, les deux ouvrages originaux de Lewis Carroll, et seul un Disney est réellement inspiré des livres, c'est Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé de 1951. Tim Burton a réussi à faire un film plein de fantaisie avec un univers extrêmement riche sur un poème qui fait 10 lignes tirées de l'autre côté du miroir. James Bobbin a un peu moins réussi son pari, parce que finalement, quand on a vu le jeu d'échecs, quand on a vu le passage du miroir, on a un peu fait le tour. Alors c'est sympa, c'est joli à regarder, mais il n'y a réellement rien à voir avec les livres. Alors c'est pas si grave, les livres sont un peu datés et surtout très pédagogiques. Mais à terme, on a l'impression d'une histoire un peu plate, de perdre de l'intensité, et on passe un bon moment sans plus. Par contre, la bande originale est toujours aussi top. Je suis un livre.
Non, je suis une BD. Non, 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 je suis un film.
Et j'ai même envie de rajouter, non, 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 je suis un manga. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler des... Enfin, un manga, en tout cas, je vais sortir un peu des sentiers battus. Je vais vous parler de Alice in Murderland. C'est un manga donc, écrit par Kaori Yuki, qui est sorti dans nos contrées francophones le 1er juin 2016. Donc il est tout beau, il est tout neuf, c'est le premier tome. Alors autant vous avertir tout de suite, dans les catégories manga, parce que les mangas ont plein de catégories, il est considéré comme un shoujo, donc ce qui veut dire un manga pour adolescentes. Cependant, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du seinen dedans, ce qui est plutôt du adulte homme. Ce qui veut dire que ça ressemble à quelque chose de joli, mais c'est violent. Voilà, première chose. Au niveau de l'histoire, on suit une famille qui s'appelle la famille Kuanji, qui est une famille très influente au Japon, qui est complètement fictive bien sûr, qui tous les mois organise une tea party. Cette tea party est obligatoire, tous les membres de la famille se réunissent, ce qui veut dire les parents et les 9 enfants. Sauf que celle-là est un peu particulière car on fête les 19 ans du fils aîné. Pour l'occasion, la mère proclame qu'il est temps de choisir le successeur de la famille et que donc il va falloir se démarquer. Et pour cela, quoi de mieux que de s'entretuer entre frères et sœurs et le survivant sera donc le successeur de la famille. Voilà. Donc, nous avons les frères et sœurs qui vont commencer gentiment à s'entretuer parce qu'il y a des contraintes et qu'autrement tout le monde meurt. La petite particularité, pour dire que c'est pas un battle royale, c'est que les personnages vont commencer à développer certains pouvoirs, on va dire. On va retrouver des personnages de conte qui vont ressortir de chacun des enfants. On va retrouver le Chaperon Rouge, on va retrouver Jack l'Éventreur, et on va retrouver Alice.
Jack l'Éventreur, note de bas de page, pas personnage de conte.
Non, effectivement, mais qui peut faire partie d'une sorte de mythologie londonienne glauque. Donc on suit le personnage de Stella, qui est la quatrième fille, qui est toute gentille, toute chou. Sauf que quand elle est vraiment menacée, elle se transforme en Bloody Alice, qui est un personnage complètement psychotique, folle alliée, assoiffée de sang. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir le côté tout gentil, tout chou et le côté vraiment très violent. Comme c'est le premier tome, c'est difficile de savoir exactement ce que ça va donner. C'est plutôt prometteur pour ceux qui aiment ce style-là. Encore un petit hors sentier battu, je vais vous parler de jeux vidéo. Je vais vous parler de Alice toujours, mais Madness Return, donc en français Retour au pays de la folie. Je devais vous en parler, c'est un jeu qui date de 2011. Il est classé comme PEGI 12, donc interdit aux moins de 12 ans. En fait, il est PEGI 16 facilement, dans le sens que nous avons une Alice qui est... en train de tomber tout le temps dans un précipice entre réalité et folie, entre le monde londonien 19e siècle, très gore, plutôt glauque. On parle de viol, on parle d'alcool, on parle de prostitution, on parle de pédophilie. Enfin, on n'a pas vraiment envie d'y aller dans ce monde réel, très sombre, où Alice ne peut quasiment rien faire, elle est juste spectatrice un peu du monde qui l'entoure. Et son univers imaginaire, qui lui, par contre, est glauque. Alors, il est haut en couleurs, plein de couleurs, magnifique. Mais il y a du sang partout. Les premières armes qu'on nous donne, c'est un couteau de boucher et ensuite, c'est un moulin à poivre. Donc, il y a un petit peu, c'est un petit peu n'importe quoi. L'histoire est quand même bien ficelée. On est vraiment dans le monde de Carole avec des personnages qu'on retrouve, la cuisinière, le cochon, enfin bref, la reine de cœur, forcément. Et l'histoire, c'est que je ne vais pas tout vous dire, mais au début, Alice suit une psychothérapie avec son psychiatre qui lui dit qu'il faut qu'elle oublie ses souvenirs, il faut qu'elle les oublie, qu'elle les enterre au plus profond d'elle. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est savoir ce qui s'est passé à sa famille, car sa maison a brûlé avec toute sa famille dedans. Elle veut savoir pourquoi. Et donc, elle va devoir s'enfoncer de plus en plus dans sa folie pour retrouver ses souvenirs.
Thank you.
Pour la daube en merveilleux et dans la catégorie entre les mondes et passages de porte, je demande le monde fantastique d'Oz. Réalisé par Sam Raimi et sorti en 2013, le monde fantastique d'Oz est la préquelle du magicien d'Oz. Pour ceux qui auraient oublié, le magicien d'Oz, initialement, est un livre qui parle d'une petite fille Dorothy qui se trouve emportée par une tornade, qui fait office de porte, dans un monde appelé le monde d'Oz. Et là, elle va tout faire pour pouvoir retourner chez elle. Elle croise sur sa route un bûcheron en fer blanc qui n'a pas de cœur, un épouvantail qui aimerait avoir un cerveau et un lion qui aimerait être courageux. Le livre est initialement un roman pour enfants. L'auteur, Lyman Frank Baum, l'a écrit en 1900 et il voulait sortir du style classique des contes pour enfants. Pour lui, Andersen et les Grimm, c'était des classiques bien jolis, bien sympathiques, mais toujours avec une part d'ombre et une morale que lui, il voulait à tout prix éviter. Alors, il a décidé d'écrire le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz est considéré aujourd'hui comme un classique et en 1939, il a été adapté dans un film. Et si vous vous rappelez, c'est un film musical qui a été interprété en partie par Judy Garland. Pour vous remettre un petit peu en tête, Le Magicien d'Oz en 1939, c'était ça. Voilà, le livre et le film sont aujourd'hui considérés comme des classiques. Le film est même carrément classé au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Maintenant que vous vous rendez compte à quel point le livre et le film sont des monuments, vous comprenez à quel point il ne fallait pas se planter quand on a décidé de faire le monde fantastique d'Oz. Petit pitch, Oscar est un magicien de pacotille, charlatan, qui est emporté par une tornade, la même porte, dans le monde d'Oz. Le monde s'appelle déjà Oz avant qu'Oscar y arrive. En fait, dans le monde d'Oz, il y a une prophétie qui dit qu'un grand magicien tombera du ciel et délivrera le pays du règne de la méchante sorcière. Oscar, qui dans son monde se faisait appeler Oz, y voit tout de suite une occasion pour se faire plein de sous, devenir riche et devenir le roi. Parce que c'est ça qu'on promet à celui qui arrivera à défaire la méchante sorcière. Le royaume et la richesse. Alors lui aussi, il a des compagnons. Il a un singe volant habillé en groom et une petite fille en porcelaine. Je vous les mentionne parce que ces personnages sont censés être des alter-égos d'individus qu'il a maltraités ou qu'il a trompés dans sa vie, dans le monde réel. Gardez ça en tête, c'est assez significatif pour la suite. Bref, au cours de son aventure, Oz doit donc lui aussi défaire une méchante sorcière et il va petit à petit devenir bon.
Ho, 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 and a couple of tra-la-las. That's how we laugh a day away in the merry old land of Oz. Buzz, 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 chirp, 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 and a couple of la-di-das. That's how the crickets prick all day in the merry old land of Oz.
Alors, l'idée était bonne, hein, parce que Baum, quand il a écrit Le Magicien d'Oz, il a écrit des suites, mais il n'a pas écrit de préquelles. Et en fait, ce que Sam Raimi a voulu faire là, avec Le Magicien d'Oz, c'est faire une préquelle au film de 1939. Donc il a repris les mêmes codes du livre et du film, c'est-à-dire qu'il a commencé son film en noir et blanc, sur un format d'écran 4:3. Et quand Oz passe dans le monde fantastique, magique, nouveau, l'écran s'élargit en 16:9 et on a de la couleur. Il reprend les codes qu'il avait précédemment. Il va même jusqu'à faire surjouer son acteur vedette, James Franco, qui incarne Oz, pour donner vraiment l'impression d'un jeu, comme si on était dans un film de 1939. Sauf qu'au moment où le film est sorti, on était en 2013. Et on a l'impression que Raimi ne veut pas assumer le fait que le temps a passé.
comme s'il voulait réinscrire ce film dans la continuité du Magicien d'Oz de 39. Pour moi, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire jouer des acteurs comme dans les années 40. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas crédible. Pour le film, selon moi, il faudrait garder les 15 premières minutes, la partie justement en noir et blanc et le moment où il découvre le monde, plus quelques prises de vue du monde, parce que c'est clairement joli. Mais à part ça, le reste est acheté. Le scénario est téléphoné, mais à des kilomètres. On voit tout venir. Et puis, à la limite, moi, j'aurais pu passer dessus en me disant « Bah voilà, ok, c'est pas un film génial, mais d'accord. » Sauf que Baum, lui, il voulait pas de morale dans ses livres. C'est ce qu'il a toujours dit. Il veut pas de morale. Et là, on en a une dans ce film. On a la rédemption. On a Oz qui se rachète. Oz qui, grâce à ses personnages d'alter ego, du singe et de la petite fille, et d'une des fées aussi, eh bien, il commence à faire le bien autour d'eux, il commence à faire le bien pour eux, et il rachète les erreurs du passé. Et pour moi, ça, c'est juste une trahison envers le texte original.
Si c'est pas une morale, ça, je sais pas ce que c'est.
Mais voilà. Donc, en conclusion, vous avez meilleur temps de regarder le film de 39, même s'il est un petit peu kitsch, juste pour les musiques classiques et incontournables qu'on connaît. Et passez votre chemin sur le monde fantastique d'Oz.
That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
enterre la daube avec le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, l'Imaginarium du docteur Parnassus. Comment définir ce film ? Il est tellement étrange qu'il est indéfinissable. C'est un ovni et c'est pour ça que je l'adore. De nos jours, Londres. Le docteur Parnassus et sa troupe, l'Imaginarium, se déplacent et font quelques représentations pendant lesquelles le docteur donne la possibilité aux spectateurs d'entrer dans un monde imaginaire. Parce que le docteur Parnassus a un pouvoir. Il crée des mondes imaginaires à partir de l'imagination de la personne qu'il choisit. C'est assez particulier. Le docteur Parnassus a également un secret. Il a un ami, un meilleur ennemi plutôt, Monsieur Nick, le diable, avec qui il fait des paris. Alors on parie l'immortalité, on parie la jeunesse, et l'objet des paris sont des âmes. Celui qui récupère le plus d'âmes gagne le pari. Et les âmes sont récupérées par le diable ou par Parnassus dans l'Imaginarium. Les spectateurs entrent et sont soumis à un choix. S'ils choisissent le diable, c'est le diable qui remporte l'âme. S'ils choisissent Parnassus, c'est Parnassus qui la remporte. Mais là, la situation est un petit peu tendue parce que, suite à un pari, Parnassus a perdu sa fille, ou plutôt, il va la perdre. Aux 16 ans de Valentina, il devra la remettre au diable. Et les 16 ans de Valentina approchent. Le diable lui propose alors un nouveau pari. Le premier qui arrivera à 5 âmes gardera Valentina. Parnassus est désespéré, mais il fait alors une rencontre. Tony, un homme qui semble avoir perdu la mémoire, un homme un peu étrange, et que Parnassus pense être un potentiel sauveur. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je n'aimerais pas vous en dire trop. Ce film est un film de Terry Gilliam qui est sorti en 2009. C'est un coup de cœur parce que Gilliam n'a pas cherché à faire un film inspiré par un bouquin ou par un scénario déjà écrit. Lui, il a voulu créer une œuvre originale, quitte à ce qu'elle ait ses propres défauts. Et c'est tout à son honneur, parce que c'est un film sans prétention, mais qui a la capacité de nous faire rêver. J'aime ce film aussi à cause du message. Le message, c'est que la mort n'est pas la fin et que rien n'est définitif. Et ce message est d'autant plus significatif quand on sait dans quelles circonstances le film a été tourné. Ce film est le dernier dans lequel l'acteur Heath Ledger est apparu. Vous savez, celui qui joue le Joker dans The Dark Knight. Voilà. En fait, The Dark Knight, c'est pas du tout son dernier film. Son dernier film, c'est l'Imaginarium du docteur Parnassus. Il est mort au milieu du tournage. Le tournage s'est déroulé en deux parties et la première partie s'est déroulée à Londres. Les prises de vue ont été faites, les prises de vue en extérieur. Et il manquait les prises de vue pour l'Imaginarium et ça devait se faire à Vancouver. L'équipe de tournage a fait une pause et c'est pendant cette pause qu'Heath Ledger est décédé. Le scénario a dû être revu et Gilliam a pris une décision. Il a décidé que toutes les scènes où le personnage d'Heath Ledger, donc Tony, devait apparaître, celle qui manquait donc, celle où il devrait être dans l'Imaginarium, eh bien pour toutes ces scènes, le personnage de Tony serait incarné par trois acteurs différents, Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Ce changement de scénario aurait pu détruire le film, pour moi c'est sa force. On va pas dire que je suis contente qu'Heath Ledger soit décédé, on n'est pas là, mais disons que pour un mal il y a eu un bien derrière. Le film, d'ailleurs, a été dédié à la mémoire de l'acteur décédé. La grande force de ce film, ce sont les personnages. Chacun a ses désirs, ses rêves. On a des individus qui gravitent autour d'un monde qui pourrait leur donner tout ce qu'ils souhaitent. Et pourtant, ils sont les seuls à pas y avoir accès. Car ici, l'autre monde, c'est notre imagination. Et là, tout est possible. Alors, c'est un coup de cœur. C'est aussi un mini coup de gueule, parce que ce film, il n'est pas parfait, il souffre un petit peu du manque de budget, on le voit au niveau des effets spéciaux, mais ça, c'est pas grave. Le détail qui me rend dingue, c'est la fin, c'est ce sentiment d'inachevé qui reste. On a l'impression que Terry Gilliam a écrit un livre et que lui-même, il ne veut pas le refermer. Il laisse la porte ouverte, comme si nous, on pourrait s'engouffrer dans l'Imaginarium. Mais pitié, terminez cette fresque, parce qu'elle est magnifique. On nous invite dans un monde où les méduses volent dans le ciel et où on peut danser sur les nénuphars. Alors, bienvenue dans l'Imaginarium.
bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Et oui, c'est la prise de notes, le moment, chers auditeurs, où vous devez prendre un crayon et un papier et noter ce que l'on vous raconte, parce que l'on vous réserve toujours le meilleur du meilleur ou le plus remarquable, le plus ancien, du thème que l'on aborde. Et là, on parle de la porte. Quatre enfants jouent dans une maison, quatre enfants qui s'ennuient. Il fait mauvais temps. Ils jouent à cache-cache et, ce faisant, découvrent une armoire et passent dans le monde de Narnia. Narnia, c'est sept romans de Clive Staples Lewis. On comprend pourquoi on écrit toujours C.S. Lewis, parce que sinon on s'en sort pas, qui est un contemporain de Tolkien. Mais avant le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, que l'on connaît grâce au film, il y a le tome de création de l'univers de Narnia, le neveu du magicien. Andrew Kirk est magicien, il crée des bagues qui lui permettent de voyager entre les mondes. Sauf qu'il est poltron. Il n'ose pas les utiliser lui-même. Il finit par convaincre son neveu de les essayer, et après plusieurs tentatives, il arrive à Narnia, un monde créé par les chants du lion Aslan. Narnia est un univers très loin du carton-pâte des films. C'est un univers en couleur, un univers magique. Un univers où seuls les jeunes enfants peuvent accéder. Un univers en sept tomes qui donne envie de jouer à cache-cache en espérant trouver au détour d'un manteau un faune qui jouerait de la musique.
Imaginez-vous, à 40, 50 ans, en ayant passé d'innombrables années avec votre âme sœur, une personne qui est en osmose avec vous, à qui vous avez tout confié, tout donné, et qui un jour vous est arrachée, pour X ou Y raison. Imaginez-vous que vous dépérissez, vous avez plus goût à la vie, mais vous êtes millionnaire. Mais que faire de tout cet argent ? Jusqu'à ce que les fêtes de Noël arrivent. À ce moment-là, un magazine arrive au nom de votre femme. Vous le savez, vous n'avez pas eu cœur de vous désabonner parce que c'était le magazine préféré de celle-ci. Vous le feuilletez, plein de nostalgie et de tristesse, et entre les séjours de luxe et les aspirateurs magnifiques et qui font même le café, vous arrivez à une annonce qui retient votre attention. Cette annonce stipule: royaume magique à vendre. Acheter un royaume pour 1 million de dollars. Landover, terre d'enchantement et d'aventure tirée des brumes du temps. Pays de chevaliers et de pages, de dragons et de gentes demoiselles, de sorciers et de jeteurs de sorts. Tous les rêves deviendront réalité dans ce royaume d'un autre monde. Alors pourquoi pas? Après tout, qu'avez-vous à perdre? Vous dépensez ce million et vous sautez dans ce monde qui est en fait complètement à l'abandon. On ne vous l'a pas dit. Pourtant, vous avez prévenu. Vous allez rencontrer des chevaliers, vous allez rencontrer des sorciers. Mais ils ne seront pas vos amis. Vous allez devoir reconstruire tout votre royaume avec comme seul compagnon et conseiller des bras cassés. Bonne chance.
Quand on passe une porte ou qu'on s'infiltre entre les lignes d'un livre, soit on se retrouve dans un royaume magique à vendre, soit ça se transforme en film. C'est le cas de Narnia et c'est le cas de L'Histoire sans fin de Michael Ende. Oui, Falcor est incroyable dans le film avec ses grands yeux et sa tête de peluche, mais Fourrour ne lui cède en rien. Bastien Balthazar Boux est un jeune garçon qui vole un livre dans une librairie et plus il avance dans sa lecture, plus il devient Atreyu, héros de son aventure. La petite impératrice est malade, malade comme le pays fantastique rongé par le néant. Le néant, c'est la perte de l'imagination, la perte du rêve, comme tous nous le faisons en grandissant. Proposition de monde imaginaire ? Retournez en enfance. Ouvrez votre imagination au merveilleux avec le monde de Narnia de C.S. Lewis, Royaume magique à vendre de Terry Brooks et L'histoire sans fin de Michael Ende. Une histoire qui commence au chapitre A pour finir à Z. Ne soyons pas en retard. Mondes imaginaires referment ses portes. On vous remercie d'avoir imaginé avec nous. Et lors de la prochaine émission, nous partirons en fantaisie pour vous parler de Zeus, de Thor et d'un auteur dont ce sera l'anniversaire. D'ici là, on vous souhaite de belles lectures et surtout du beau temps pour profiter de lire dans les espaces verts et d'avoir vos yeux qui s'illuminent au soleil. Ciao, ciao!
Salut!
Bye bye!
One, two. Scarlet when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're